temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy,
Priscille Lafitte
et ses invités.
L'émission Temps contre temps reçoit aujourd'hui Yvon Gattaz. Bonjour Monsieur Gattaz.
Bonjour.
Les émissions Temps contre temps reçoivent un académicien ainsi que des étudiants ou de jeunes actifs comme aujourd'hui. Un regard croisé entre générations où s'engage la transmission et qui permet aussi à la plus jeune génération d'interroger la génération qui la précède sur ce qui la gêne ou ce qu'elle rejette dans l'héritage qu'elle reçoit. Yvon Gattaz, vous êtes donc entouré de deux jeunes personnes aujourd'hui, Antoine Prudhomoz, contrôleur de gestion chez PSA Peugeot Citroën. Vous vous investissez dans diverses associations, notamment les Conversations Essentielles, qui est notre partenaire pour cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Marie Lyonnais, historienne d'art. Vous faites de la recherche sur les peintures murales médiévales en Hongrie et vous enseignez également dans plusieurs universités. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons donc un éventail divers d'expériences de l'entreprise, hein, puisque chacun vous abordez comme l'entreprise de façon très différente dans votre quotidien. Donc une expérience différente du travail et de son harmonie forcément avec ses salariés. C'est donc bien d'entreprise et d'harmonie possible ou impossible avec l'homme dont nous allons parler aujourd'hui. Car Yvon Gattaz, vous le savez tous, est ancien patron des patrons au CNPF, l'ancien MEDEF. C'était en 1981 que vous avez commencé cette grande carrière à l'arrivée de François Mitterrand. Et derrière aussi, vous avez une grande carrière de chef d'entreprise et vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors commençons par une définition, si on peut en donner une, du travail par rapport à l'homme, Antoine Prudhomoz.
C'était plutôt de l'ordre de la question, mais en fait, on se posait pas mal de questions par rapport à la place que l'homme donne à son travail et le sens qu'il peut lui donner. Donc on se disait que la première question à se poser, c'était de savoir mais comment est-ce qu'on peut définir le travail avant de lui donner un sens? Quelle est sa nécessité? En quoi le travail est nécessaire à l'homme? C'est toutes des questions un petit peu en vrac. Mais...
qui est une question très actuelle hein, aujourd'hui avec les 35 heures, la place des loisirs, etc. Yvon Gattaz.
Oui, mais c'est une question très importante, c'est une question presque philosophique, et en tout cas sociétale. Bon, c'est l'organisation de la société qui est basée, qu'on le veuille ou non, sur le travail. Alors le travail a mauvaise réputation depuis toujours, c'est pas d'hier. Comme vous le savez, l'origine étymologique, c'est tribalium. Vous savez, tribalium, vous savez ce que c'était à l'origine? C'était le joug des bœufs qui tiraient des instruments aratoires, le tribalium. Puis comme... on l'a transformé peu à peu en instrument de torture, c'est vous dire que travail a de mauvaises origines, n'est-ce pas? Et donc, quand on dit travail, c'est par définition quelque chose de très pénible, de très pénible. Alors, ce travail était nécessaire depuis l'origine des temps pour assurer sa subsistance. C'est un mal nécessaire. Ça n'a jamais été la joie. Et depuis toujours, ce mal nécessaire, il fallait l'assumer pour assurer son confort, d'abord sa subsistance, acheter des vêtements, se loger, etc. Et puis, si on regarde l'évolution du travail dans le temps, il s'est produit plusieurs révolutions successives. Au XXe siècle, curieusement, le travail, qui était aliénant, est devenu en quelque sorte libérateur. D'abord, on a supprimé en grande partie sa pénibilité. Ça change tout. Quand aujourd'hui les agriculteurs ont des engins mécaniques, ils ne font plus le travail de fou que faisaient leurs grands-parents, ça change la nature du travail. Donc le travail est devenu plus intellectuel, si j'ose dire. Donc il a changé déjà de nature. Et puis, on s'est aperçu que s'il avait été aliénant pendant des siècles, il pouvait être libérateur. Ah, et pourquoi le travail est libérateur? Mais il est libérateur parce que les gens qui travaillent, grâce à ce travail, gagnent leur vie, gagnent leur indépendance. Les femmes, mesdames, qui sont présentes dans ce studio, elles ont plus été libérées par le travail que par la cigarette. C'est le travail qui vous a libéré. Mais oui, c'est pas la cigarette. C'est de la blague, ça. C'était en 68 qu'on racontait ça. Le travail a libéré la femme, complètement. Ça a changé la structure de la société. Alors nous avons connu... dans les décennies dont je suis moi-même un observateur un petit peu aigu, j'essaye, nous avons connu différentes phases. D'abord cette phase que j'ai magnifiée dans plusieurs livres. D'ailleurs, dans mes tout premiers livres, je disais le travail d'aliénant est devenu libérateur. Et puis, il y a eu des changements en sens inverse. Il y a eu 68, où le travail a pour... on a redemandé une autre libération, de moins en moins de travail. On avait nommé, en 81, les socialistes avaient nommé un ministre du temps libre, anti-travail. Puis alors, les grands mots, les grandes phrases, monsieur, ne parlez pas de travail, parlez-nous de la qualité de la vie. C'est autre chose quand même.
C'est pas... Ça ne date pas d'avant 1968, ça ?
Ah oui, les années 30. La libération était avant, et puis la phase de rechute a été 68 et 81. Ou alors le travail est redevenu aliénant. Et puis alors, nous reconnaissons maintenant, contrairement à ce qui se dit d'ailleurs, je sais bien que je vais vous choquer un peu, car tout le monde n'est pas de mon avis. Moi, je suis persuadé qu'en ce moment, nous retrouvons une période de reconnaissance extraordinaire du travail. Je m'occupe, vous savez, de création d'entreprises, beaucoup, je sème les bonnes paroles pour pousser les jeunes à créer des entreprises, et je suis étonné de retrouver chez ces jeunes d'aujourd'hui l'engouement que j'ai connu, moi, quand j'ai créé Radial en 1952 avec mon frère, un enthousiasme débordant, le travail n'avait pas de problème d'horaire, on était prêt à faire 70 heures par semaine, supprimer le samedi, le dimanche et les vacances, que nous avons fait, nous, pendant 4 ou 5 ans, mon frère et moi. On n'a jamais pleuré, on ne s'est jamais plaint. On a été libérés grâce à ça. Eh bien, on retrouve ça chez les jeunes d'aujourd'hui. Je viens de faire en 2 ans quelques 20 ou 25 conférences sur la création d'entreprises auprès de jeunes, quelquefois de grandes écoles, mais quelquefois d'universités, quelquefois d'écoles d'ingénieurs ou de techniciens, et je retrouve ce goût du travail.
Marie Lyonnais.
Oui, en fait, quand je vous entends, non, mais je me demande, est-ce qu'on ne peut pas dire, par rapport aussi à tous les discours qu'on peut entendre ou qu'on vient d'entendre aussi pendant la campagne présidentielle, qu'il y aurait 2 vitesses ? C'est-à-dire qu'il y aurait une partie de la société qui serait en train de privilégier justement le loisir et d'être pour les 35 heures, et puis peut-être justement une autre partie de la société qui, au contraire, serait plus, comme vous disiez, comme ces jeunes qui sont prêts à s'investir complètement. Enfin, on a l'impression qu'il y a quand même 2 mouvements, globalement, oui. Non ?
Vous n'avez pas tout à fait tort, il y a différentes sortes de travaux, vous avez tout à fait raison. Il y a ce qu'on pourrait appeler le travail de responsabilité et le travail d'exécution, pour parler comme les gestionnaires des grandes entreprises.
Et puis différents salaires.
C'est vrai. Alors, avec des différences de salaire significatives, mais quand même, la nature du travail même. C'est vrai que le travail à initiative et responsabilité, c'est le vrai travail. C'est celui de la création d'entreprise, c'est celui des postes dirigeants, c'est celui d'initiative, comme journaliste qui prend des initiatives. Enfin, il y a plein de postes, par bonheur, dans France, qui sont des travaux à responsabilité et initiative. Et puis alors, est-ce que nous appelons dans l'industrie le travail purement d'exécution ? Alors là, je vais aussi vous surprendre. Car ce travail d'exécution a été pendant longtemps le taylorisme. Prenez une pièce et on va vous expliquer comment la prendre avec le minimum d'effort et la plus grande rapidité. Tout va être organisé, planifié. C'est l'époque du taylorisme. C'est mort, ça. Aujourd'hui, on est dans le lean manufacturing, de Toyota, n'est-ce pas ? Et dans nos entreprises les plus modernes, j'ai la chance d'en avoir une qui est dirigée par mon fils, eh bien, nous mettons le lean manufacturing dans tous les ateliers, c'est-à-dire d'après le principe de subsidiarité, on essaye de donner au plus bas de l'échelle à des agents d'exécution le maximum d'initiatives et de responsabilités. Au lieu de leur dire « un service de méthode super intelligent vous a organisé votre poste de travail et on vous demande de l'exécuter le plus rapidement possible », non. Voulez-vous organiser vous-même votre poste de travail ? Ça change tout. Quand vous donnez à une personne des initiatives, ben, elle les assume. C'est le contraire de la contrainte. Quand un service de méthode donne des gammes de production, c'est quand même une forme de contrainte. Si cette gamme de production a été établie par l'agent, ce n'est plus une contrainte, c'est une initiative.
Mais justement, parce que c'était une question qui me démangeait les lèvres aussi, c'est que vous parliez du fait que le travail d'une contrainte est devenu libérateur. Je ne sais pas si les mots sont les bons. Mais je me disais, il y a aujourd'hui encore effectivement des travaux qui restent pénibles et peut-être plus d'exécution.
C'est vrai.
Avec une notion de pénibilité.
C'est sûr.
Et justement, moi, c'est une grande question souvent, c'est mais comment on fait pour des travaux qui restent relativement répétitifs ? Je pense à des chaînes de montage ou des choses comme ça. Comment fait-on justement pour mettre une part de responsabilisation dans ce genre
d'activité. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vivent ça aujourd'hui encore comme une contrainte et quelque chose d'un petit peu, je ne sais pas si le mot est bon, mais un peu abrutissant de faire la même chose des journées durant.
Et pour compléter la question d'Antoine Prud'homose, c'est cette nouvelle technique, cette nouvelle pratique de la responsabilisation à toutes les échelles, ça engendre aussi du stress. On en voit aussi les défauts. Hein.
Bien sûr. Alors, le stress, si vous voulez qu'on aborde le stress dans le travail, on peut l'aborder tout de suite. C'est également un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché avec mes amis. Qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est une seule chose. C'est la réactivité mal supportée. Aujourd'hui, n'est-ce pas, moi, tous mes livres commencent par ma maxime personnelle, qui est la devise de ma vie et la devise de mon entreprise, vite et bien. Vite et bien. Qui ont longtemps été considérés comme incompatibles. Et dans l'entreprise, dans les initiatives, dans les postes à responsabilité, il n'y a pas d'autre solution que de faire vite et bien. Je n'ai pas dit très vite et bien, ce n'est pas possible. Mais on fait plutôt, ou on fait, généralement, souvent, on fait vite et mal, ou lentement et très bien. Ça ne marche plus. Ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, c'est vite, pas très vite, et bien, et pas très bien. C'est déjà pas mal. Concilier ces deux inconciliables, vite et bien, c'est le secret de l'économie d'aujourd'hui. Toute l'économie est basée sur cette maxime, vite et bien.
C'est un peu faire aussi bien, enfin le plus vite possible et le mieux possible pour pas être devancé par l'autre, en fait.
Hein. Absolument. Ouais. Bravo. C'est la compétition. Mmh. La compétition, la compétitivité, même étymologique le mot compétition, c'est toujours une compétition contre quelqu'un. On est compétitif pour être en compétition avec quelqu'un. Et si, quand on est en compétition, ou ça marche, ou on est distancé. Donc, pour revenir au stress, le stress est un mot médical à la mode, ce qui dit simplement que c'est cette réactivité inévitable, indispensable dans la vie moderne, dans la vie économique moderne, qui est mal supportée. Alors que c'est vrai que se vite et bien, les gens ne courent pas tous à la même vitesse. Et le drame, c'est de vouloir tous les pousser à la même vitesse. Ils courent plus ou moins vite. Et les lents, si vous les poussez, ils ne courent pas plus vite, ils tombent. Et c'est ça le stress. C'est les gens qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas morphologiquement courir.
Mais alors, permettez, quelqu'un qui ne peut pas courir, est-ce qu'il va rester sur le bord? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être de la formation ou un accompagnement particulier? Parce que il y en a un certain nombre qui vont trébucher. Alors ça s'appelle du stress ou ça s'appelle le fait de ne pas vouloir ou pouvoir assumer des responsabilités ou de l'encadrement ou l'initiative au même titre que d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui trébuchent?
Parce que alors, ça pose... alors vous avez, c'est une très bonne question. On ne peut pas les abandonner sur le bord du chemin, comme vous venez de le dire. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut les accompagner, les former, les déstresser. Alors, c'est facile à dire et difficile à faire. Nous avons de plus en plus dans les consultants des médecins. Beaucoup de consultants aujourd'hui d'entreprise sont des psys ou des médecins. Et on en a besoin, car effectivement, il ne peut pas courir assez vite. La méthode brutale, stupide de l'industrialisme du 19e siècle, c'est-à-dire, on vous élimine. C'est impossible aujourd'hui. On n'élimine pas les gens qui ne sont pas adaptés. On essaye de les changer. Alors, on a plusieurs méthodes. On peut les former, mais vous savez, on ne fait pas courir si vite que ça, l'élan. Hein, croyez pas ça. Le lent reste lent. On peut l'accélérer un tout petit peu, mais il ne sera jamais rapide. Alors, on essaye de lui trouver un poste où la lenteur est moins dramatique que dans une chaîne de montage où il ralentit toute la file. C'est-à-dire, on lui donne un poste indépendant. Un peu indépendant. Où sa lenteur n'est pas catastrophique. Mais la lenteur d'un individu, c'est pas 5, 10, 20% de plus qu'un individu normal. C'est 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois le temps. Une anecdote, je ne sais pas si je peux dire une anecdote ici, mais ça va égayer un peu notre discussion. J'avais un collaborateur il y a très longtemps, il y a 30 ans, et le soir des vacances, je lui dis « Bernard, bonnes vacances, où partez-vous demain matin ?» Il me dit « Monsieur, je vais rester 24 heures de plus. » Je lui dis « Pourquoi ?» « Pour ranger quelques papiers. » Je savais que c'était un ultra-lent. Hein. Je lui dis, c'est pas bien ce que vous faites. Vous me jurez que vous partez demain soir. C'est juré, monsieur. Demain soir, je plie le bagage, je partirai, etc. Je reviens 3 semaines après. À l'époque, on n'avait que 3 semaines de congé. Et j'arrive 3 semaines après, je trouve mon Bernard à son poste. Je lui dis, alors, bonnes vacances, c'était bien le bassin d'Arcachon. Il me dit, j'ai pas bougé. Et qu'est-ce que j'ai fait? j'ai classé mes papiers pendant 3 semaines. Définition même du lent. Et il a commencé à classer ses papiers, puis de l'un à l'autre, il a passé ses 3 semaines. C'est ma définition personnelle que j'ai vécue, que j'ai connue, avec un garçon qui était remarquablement intelligent en plus, et incroyablement lent. C'est ce genre de perfectionniste. Il n'y a rien de pire que le perfectionnisme. Ça, le perfectionnisme, c'est affreux.
Je trouve très rassurant de vous entendre dire ça.
Je me méfie des perfectionnistes. Ils disent, c'est jamais assez bien, jamais assez long. Bon, la perfection n'étant pas de ce monde, ça peut s'étirer comme un élastique à l'infini. Et c'est pour ça qu'il faut faire vite et bien, il faut même mieux. Alors, je vais peut-être vous choquer, il faut avoir le courage de faire faux. La recherche de la vérité absolue, c'est de la folie. La vérité absolue n'existe pas, même en philosophie. Il faut avoir le courage de faire faux. On sait que c'est pas parfait, on s'arrête. C'est pas aussi bien qu'on voudrait, on s'arrête. On affiche l'erreur. On dit, je vous ai donné des résultats à 5%, 6%, 7% près. J'affiche mon erreur, mais j'ai le courage de l'afficher et de dire, c'est faux, et je le reconnais, mais c'est faux dans telle limite.
Nous marquons une toute petite pause. Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère. Nous sommes donc en compagnie d'Yvon Gattaz, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Antoine Prudhomoz et Marie Lyonnais. Et nous nous interrogeons sur les hommes, les entreprises et leur harmonie éventuelle. Par rapport maintenant à l'entreprise, quelle est la finalité de l'entreprise par rapport à l'homme, Antoine Prudhomoz ?
En fait, la question qu'on se posait là, il y a une question qui m'a marqué il y a quelques années à la fin de mes études, c'était quelqu'un qui se posait la question de savoir est-ce que l'entreprise est faite pour l'homme ou est-ce que l'homme est fait pour l'entreprise ? Et alors moi, naturellement, j'ai envie de penser que c'est l'entreprise qui est faite pour l'homme. En même temps, je me dis que la question mérite de se poser, parce que dans le concret, parfois, on se dit, mais est-ce que l'entreprise met l'homme au cœur de ses préoccupations ? Parfois, j'ai un peu de mal à répondre à la question.
Yvon Gattaz.
Pas suffisamment. Réponse, pas suffisamment. N'oubliez pas comment est née l'industrie, n'est-ce pas ? Au 19e, les créateurs d'entreprises, qui étaient à l'époque industrielles, avaient d'autres soucis que de s'occuper des hommes, et c'était dramatique, n'est-ce pas ? Les erreurs humaines qui ont été faites par mes prédécesseurs, par mes anciens, par les chefs d'entreprise de l'époque, sont très graves. Mais ils ont des excuses, ils ont eu des excuses. Ce n'était pas leur souci premier. Le souci, c'était d'abord de fabriquer des produits qu'on ne savait pas faire. Donc il y a eu cette étape de l'industrialisation qui a marginalisé les hommes. Et c'est comme ça qu'est né le syndicalisme, qui est né d'ailleurs de façon tout à fait vertueuse. Il fallait défendre des hommes, qui souvent d'ailleurs étaient analphabètes, comprenaient pas les mécanismes de l'entreprise, étaient soumis à une règle drastique. Moi, j'ai retrouvé dans des archives des règlements intérieurs d'entreprise absolument délirants. On commençait à 6h du matin, on avait le droit d'aller se laver les mains à 10h, etc. On avait un quart d'heure pour manger son casse-croûte. Enfin bon, c'était effarant, effarant. Bon, il faut le reconnaître, ça existait. Mais, je le répète, les chefs d'entreprise d'époque avaient quelques excuses. Et puis, ça a aussi beaucoup évolué dans le temps. Moi, je suis très étonné, moi, je suis chef d'entreprise depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans, je ne suis pas le plus vieux, mais je suis peut-être un des plus anciens chefs d'entreprise français, de voir l'évolution qui s'est produite dans tous les pays modernes. Évolution extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, d'un côté, les salariés ont compris les principes de l'économie, les exigences économiques de l'entreprise. Pourquoi ? Il fallait travailler un certain nombre d'heures, pourquoi il fallait une certaine productivité, pourquoi il fallait une certaine qualité, pourquoi il fallait tenir des délais. Les salariés, depuis 30 ans, 40 ans, ont fait des progrès invraisemblables, historiques. Et dans le même temps, ces chefs d'entreprise, qui, je l'ai dit, n'étaient pas respectueux de l'homme, ont compris, alors là de façon intéressée, je le connais, c'est pas par générosité spontanée, ont compris que la valeur de leur entreprise, c'était la valeur des hommes. Et que la valeur de leur entreprise, la performance de leur entreprise dépendait de la motivation, de la qualité des hommes. Et par intérêt, je le reconnais, par intérêt, ils sont bien à s'intéresser aux hommes. Et maintenant, tous les chefs d'entreprise sont très soucieux du climat social, de même que tous les salariés des entreprises souhaitent le succès de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas. On entendait tout de suite après la guerre la CGT dire « on veut le bonheur des salariés, la destruction de l'entreprise ». Je l'ai entendu. Ce genre de stupidité a existé. On ne veut pas le croire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il est en train de se construire un rapprochement qui peut se terminer que par une certaine harmonie sociale. Ne rêvons pas. J'ai dit une certaine harmonie sociale. Ne rêvons pas. Mais qui est inéluctable. Et si tout le monde le comprend, et c'est en voie de compréhension, à condition qu'à la base, il y ait cette compréhension directe. L'erreur qu'on fait tous et que font la plupart des pays, c'est d'avoir voulu institutionnaliser ce dialogue humain. Transformer le dialogue humain en dialogue social et même en dialogue syndical. Or, le social, ça n'est jamais que l'humain massifié, et le syndical, ça n'est jamais que le social institutionnalisé.
Donc en fait, pour voir si j'ai bien compris, ça veut dire que, en gros, le dialogue, si on peut l'appeler comme ça, entre la place de l'homme dans l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise, enfin son impératif de rentabilité,
de
profit, en fait, le mieux, c'est qu'en fait, ça s'équilibre de soi-même, en fait. Si
de soi-même, à la base. Et ça ne vit un affrontement. Moi, je suis un des rares en France à avoir été chef d'entreprise pendant des décennies, à la base, assurant le dialogue humain à la base, parlant avec mes salariés, et avoir eu la chance, ou la malchance, comme vous voudrez, de remplir le poste de patron des patrons pendant 5 ans. C'est-à-dire d'avoir eu ce dialogue au sommet. Ce fameux dialogue social dont tout le monde vous parle. Et qui est inévitable. Quand on parle d'assurance chômage ou d'assurance retraite, c'est des assurances de masse qui ne peuvent se traiter que collectivement. Là, il faut bien des représentations. Il faut des corps intermédiaires. Donc il faut des syndicats. Et il faut ce qu'on appelle stupidement le patronat. J'aime pas rendre cette association professionnelle. Au sommet, il faut donc qu'il y ait un dialogue organisé, institutionnalisé, syndicalisé, obligatoire. Mais de grâce, à la base, cherchons à rétablir ce contact direct entre le chef d'entreprise, le chef des gérants et les hommes. Le dialogue humain est personnalisé. Les hommes, aujourd'hui, tous les hommes veulent une machine à laver, un poste de télévision personnalisé, une voiture personnalisée. Pourquoi ils ne voudraient pas un dialogue personnalisé dans l'entreprise? Et l'avenir de l'harmonie sociale, je le prédis solennellement, c'est de retrouver ce dialogue humain et personnalisé à la base, en direct, sans intermédiaire, avec une compréhension. Je supplie les chefs d'entreprise d'assurer ce dialogue, je les supplie, mes confrères, et je crois qu'ils me comprennent, et je supplie les syndicats de nous ficher la paix à la base.
Oui, mais ce dialogue, M. Gattaz, est par définition déséquilibré. Il y a quand même un rapport de force.
Bien sûr, c'est ce qu'on me dit toujours, c'est vrai, mais vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer le changement extraordinaire de relation qui s'est produit depuis 30 ans entre directeur d'établissement, par exemple, chef de service, et le salarié de la base. Avant, il était commandé, c'était un numéro, tel caporalisme. Mais il faut voir un magasinier venir parler à son directeur. C'est incroyable. Monsieur, je sais très bien qu'on a trop de stock. Je sais très bien qu'il faudra le diminuer de 20%. Je sais très bien qu'il faudra améliorer les temps de travail de 5%. Je sais très bien que la productivité de l'usine a été insuffisante le mois dernier et qu'il faudrait l'améliorer de 3,5%. Le magasinier, nous sommes tous les jours ébahis. La compréhension économique des salariés français et des pays modernes a monté verticalement, historiquement, depuis 30 ou 40 ans. Donc, aujourd'hui, on est en train d'avoir le langage du 19e siècle. On se croirait à la création des syndicats au 19e. Où il faut défendre l'ouvrier de l'alphabet. Mais les données sont complètement différentes. Et moi, je crois connaître le secret de l'harmonie sociale. Je crois le connaître. Ben oui, récemment, un ministre a dû visiter une de nos usines. Et je n'ai pas porté ça, j'aurais dû vous la porter. Et il a dit, mais je viens de découvrir l'harmonie sociale dans une usine.
Marie Lyonnais.
Oui, effectivement, vous parlez de cet avènement de l'harmonie sociale. Est-ce que ça peut être vraiment compatible, justement, avec cette recherche de rentabilité à court terme, enfin, cette fuite vers le profit, les gains des entreprises, et par rapport aussi au fait que, finalement, la vie de l'entreprise, pour beaucoup, est aussi déterminée, conditionnée par les marchés financiers et par l'évolution de plus globale, hein, donc aujourd'hui.
Et une financiarisation qui pèse de plus en plus lourd.
Eh bien, je vous félicite car vous avez trouvé effectivement le talon d'Achille. Bravo. Je n'ai pas eu besoin de le dire moi-même. Vous l'avez trouvé.
Vous en avez cherché très loin.
Je vous félicite. Et c'est vrai. Je l'avoue, c'est vrai. Il y a une sorte d'incompatibilité entre tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la direction d'une usine, la production d'une usine, et cette financiarisation un petit peu démentielle qui est en train de s'en venir parce qu'il se trouve que les gens les plus malins ont trouvé la formule. Au début, on a gratté la terre pour être agriculteur, pour assurer sa subsistance. Après, on a découvert le silex taillé et on est passé à l'industrie. On a fabriqué des outils. Ça a été l'ère industrielle. Après, les gros malins ont dit, mais au lieu de fabriquer des machines ou du matériel ou des produits, je vais les vendre. Ça a été l'ère du commerce, début du tertiaire. Ça a été les Lombards du 15e siècle en Italie, qui se sont mis à vendre sans fabriquer, en disant qu'ils voulaient les entendre, on va laisser aux fabricants les mauvais produits, les stocks, les risques, les machines, les trucs. Et nous, on vendra. Au bout de quelques années ou de quelques décennies, les marchands gagnaient plus d'argent que les fabricants. On parlait toujours des aciéries allemandes en 1939, mais les marchands de fer allemands, les marchands de fer, on les appelait comme ça, étaient 10 fois plus puissants que les aciéries. Bon. Donc, il y a eu l'ère des marchands. Et puis après, toujours les plus malins ont dit, mais attendez, pourquoi prendre de la marchandise et revendre de la marchandise? Et si je n'en voyais rien du tout? Et si je ne voulais pas voir la marchandise, pas savoir qu'il y a de la marchandise, faire commerce de l'argent. Et ça, c'est les malins, des malins, des malins. Et aujourd'hui, on est livré à ces gens-là, qui prennent les gens les plus astucieux, qui prennent les ingénieurs les plus forts en technique pour les produits dérivés. Et on a aujourd'hui une ingénierie financière qui devient fabuleuse, comprise par personne, que des seuls initiés. Et c'est vrai que ça peut créer quelques inquiétudes. Les plus grosses fortunes du monde sont dès maintenant des fortunes financières. Et dans quelques années, ce sera encore pire. Donc, nous, producteurs industriels, nous nous posons des questions. Vous avez bien raison, c'est une très bonne question. Et ça nous fait un peu mal au cœur de voir quelqu'un qui n'a jamais vu une usine acheter une usine et la revendre avec 20% de plus-value et en disant après, au point de vue sociétal, je suis créateur de valeur. J'aime mieux être créateur de richesse que créateur de valeur. Et ces gens-là disent, bah, attendez, j'ai créé de la valeur. Je l'ai revendu 20% que je l'ai acheté. Il n'a rien fait. Parce que Mitterrand appelait gagner de l'argent en dormant. Il avait tort, car ils ne dorment pas, ces gens-là. Ils sont extrêmement éveillés.
Mais ça donne quand même lieu à des aberrations industrielles, sociales et écologiques en plus, souvent.
Sûrement. Tout réuni. Je suis d'accord. Et ça, c'est un des points qui, aujourd'hui, en 2007, est loin d'être résolu. Nous sommes encore mondialement, dans une période forte de financiarisation montante, au détriment, il faut bien le dire, de la production elle-même d'abord, et même de la distribution. La troisième fois, c'est la troisième race, est en train de gagner sur les deux autres.
Mais du coup, je me pose une question, si jamais il y a ce côté financiarisation qui dicte un petit peu des choix à l'entreprise, enfin qui essaye d'en dicter à l'entreprise, et puis de l'autre côté, en face des managers, des chefs d'entreprise qui, eux, essayent d'équilibrer entre la recherche de profit, qui est un des buts de l'entreprise, et puis le fait de ménager, d'avoir soin des hommes qui travaillent l'entreprise parce que c'est leur richesse première. En fait, au bout d'un moment, on se dit que le fusible au milieu, c'est bien le dirigeant, enfin le chef d'entreprise, qui doit gérer le concret de la production, et puis les exigences de ces marchés financiers.
Tout à fait.
Et je ne sais pas, quel conseil vous donneriez de rester libre des marchés financiers
C'est une position d'équilibriste, et c'est pourquoi nous recommandons, je suis président d'une association des moyennes entreprises patrimoniales, c'est-à-dire dont les capitaux appartiennent aux dirigeants, en grande partie, n'est-ce pas ? Ces entreprises ont l'avantage d'avoir une stabilité financière qui ne dépend pas de la spéculation, ce qui est un avantage considérable. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces entreprises, il y a 600 membres à l'association ASPEP, c'est bon, il y a d'entreprises patrimoniales, ont des résultats performants, une forte innovation et surtout de stabilité financière, pas d'à-coups, pas de licenciements, pas de fermeture et une stabilité des hommes. Un climat social, on peut trop parler d'harmonie sociale qui peut paraître un peu présomptueuse, mais disons un bon climat social, un bon climat humain, comme nous préférons dire, et que n'ont pas les grands groupes, forcément, c'est pas possible. Alors, on voit bien la différence. Quand telle de ces entreprises patrimoniales est pour des raisons de transmission, de succession, obligée de passer dans les mains du LBO, et quelquefois des hedge funds, vous voyez ce qui peut se passer. Vous devez produire du 15% de rentabilité du placement, mais on ne veut pas savoir. Et vous licenciez, vous fermez, vous mettez à la porte, vous baissez les salaires, on ne veut pas savoir. Il n'y a plus d'humain là-dedans.
Du coup, ça et vous avez l'équilibre.
Raison, nous sommes pris entre les deux. Et nous, nous privilégions l'humain.
Et est-ce que c'est ça aussi qui explique qu'aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup des PME, de leur vitalité, et finalement, on a l'impression que ce sont les lieux qui créent le plus d'emplois et où on a l'impression que les employés s'épanouissent le plus. Est-ce que vous le reliez avec
ce
mouvement ?
Sûrement, vous savez, le PME, j'aime pas beaucoup le PME parce qu'il est très ambigu. On ne sait pas bien si c'est des petites ou des vraies moyennes. Les vraies moyennes sont en dehors des PME, donc appelons des entreprises de taille humaine, si vous voulez, c'est plus humain, on voit mieux, et qui ont gardé en plus un financement personnel, donc un caractère patrimonial. Ça change tout, et vous avez bien raison de dire qu'elles sont bien considérées, mais toutes les études qui ont été faites sur ces deux catégories d'entreprises, je vous signale celle du professeur Alouche, il a fait des comparaisons avec, il a pris une vingtaine de facteurs de performance, et ces 20 facteurs, il les a mis en face d'une colonne d'entreprises patrimonial, tel secteur, et à côté d'entreprises non patrimoniales, filiales de grands groupes financiers, dans le même, à peu près de même taille, dans le même secteur d'activité. Et il a fait les comparaisons. Eh bien, pour les 20 critères, avantage aux entreprises patrimoniales. Pour les 20 critères, innovation, productivité, rentabilité financière, climat humain, formation, 20. Tous les critères. Vous pouvez vérifier ça. Tout le monde connaît l'étude du professeur José Alouche. Et vous verrez que ce que je vous dis est tout à fait caractéristique.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Je pense que là, en fait, tout ça, ça nous relie un petit peu à la troisième sorte de question qu'on se posait sur justement l'harmonie entre l'homme et l'entreprise. Parce que je me disais au fond, s'il y a ce tiraillement entre le chef d'entreprise et les exigences des marchés financiers, j'ai une première question qui est un petit peu entre les deux, c'est est-ce que cette financiarisation, il n'y a pas une limite à un moment donné ? Est-ce que à un moment donné, ça ne va pas tourner à vide et se dire si on privilégie toujours ce profit financier sans prendre en compte réellement le concret de l'activité, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas exploser ?
Ça n'explosera pas, mais ça trouvera ses limites, vous savez.
Ou exploser socialement, déjà, ça peut.
Oui, la nature trouve des limites à tout. Quand il y a un excès, ça se rétablit par bonheur. C'est la main invisible d'Adam Smith, vous savez. Non, je crois que ça se rétablira peu à peu. Nous sommes dans une période d'excès. Moi, j'ai une formule que je martèle depuis déjà pas mal d'années, qui commence à être reproduite assez souvent. Je prétends que bientôt, le vrai talent de la gestion, ce sera la gestion des talents. Ça ne sera que ça. C'est-à-dire que le véritable chef d'entreprise, sa qualité principale sera le patron animateur. J'avais écrit il y a bien longtemps un livre qui s'appelait « La fin des patrons », avant d'être moi-même patron des patrons, c'est-à-dire en 79, 78, j'avais écrit un livre, La fin des patrons, où je parlais de la troisième race de patrons. J'ai la première race, on vient de le voir, ça a été les industriels, techniciens. Puis les Américains, tout de suite après la guerre, ils ont appris le secret du management, hein, On avait le fameux gap du management, l'écart. Bon. Et ils nous ont appris qu'on pouvait déléguer la technique et faire de la gestion. C'est une très bonne formule. C'était la deuxième race de patron. Et moi, j'avais inventé la troisième, c'est pas à cette époque-là, qui depuis s'est imposée d'ailleurs. C'est la race des animateurs au sens large du terme, au sens étymologique du terme. Animateurs. C'est-à-dire qu'ils délèguent la technique, mais qui peuvent déléguer en grande partie la gestion. Je n'ai pas dit qu'ils abandonnaient complètement le regard sur le rapport mensuel ou trimestriel. Il faut qu'ils gardent un œil sur le compte résultat. Mais ils ont surtout un animateur au sens large. Animateur de quoi ? Animateur d'abord des salariés. On a vu tout à l'heure que la motivation, c'est la richesse principale de l'entreprise. Mais animateur des clients. Vendre son entreprise, ses produits à des clients. Animateur de ses fournisseurs. Animateur de la réputation qu'on peut avoir dans la région ou éventuellement en bourse, si on est en bourse, n'est-ce pas ? Animateur. Et vous regarderez qu'actuellement, les meilleurs chefs d'entreprise mondiaux sont avant tout des animateurs. On n'est plus à la race du technicien enfermé dans son laboratoire. Il peut pas être patron, celui-là. Le talent de la gestion, c'est la gestion des talents.
Il me semble que, pardon, je ne sais pas si on peut encore poser une question, mais il me semble que
la dernière question.
Là, vous disiez que le vrai talent de la gestion, c'est la gestion des talents. Il me semble que ça répond à des questions qu'on s'était posées aussi sur le fait de savoir comment l'entreprise accompagne la croissance de l'homme. Est-ce qu'elle peut se passer d'accompagner cette croissance, cette maturation parce que moi, je suis jeune, par exemple. J'imagine que l'entreprise, avec des devises comme celles que vous avez données, elle s'applique à accompagner la maturation des gens. Il y avait aussi une question qui était sur la place qui est donnée à la relation entre les personnes au sein de l'entreprise. Et de là, en fait, une question sur le rôle social, la question du lien social dans l'entreprise, un rôle de l'entreprise qui est un facteur de lien social. Et aujourd'hui, c'est aussi une question qu'on se pose, comment l'entreprise et le chef d'entreprise peut être acteur de ce genre de choses.
Oui, alors là, il ne faut pas rêver, n'est-ce pas ? L'entreprise n'est pas créée pour devenir un acteur social et répondre à un climat social qui lui est demandé par la société. Non, non. Un jeune chef d'entreprise, j'en ai créé quelques centaines, n'est-ce pas ? Il a envie de faire fortune, bravo. Eh bien, moi, je ne le décourage pas. Quand il vient me trouver en me parlant de la piscine hollywoodienne, je lui dis « Bravo, mon petit, tu as raison. Vas-y. » Le fisc le ramènera à une moralité financière plus tard. Ne vous inquiétez pas, il ne fera pas fortune. Enfin, moi qui crois. Puis il s'apercevra plus tard que son rôle est passionnant. Il faut qu'il ait des tas de qualités d'émission. Il faut que ce soit un émetteur. Et pas un récepteur de qualité dans les élites. Il y a émission ou réception. Vous êtes ou émetteur ou récepteur. Alors, les qualités de réception, il n'y en a que quatre, comme vous le savez. Il y a la compréhension qu'on appelait au XIXe siècle l'intelligence, la compréhension, la faculté d'analyse, la faculté de synthèse et la mémoire. On sous-estime toujours qu'il y a un rôle capital. Avec ça, on passe tous les diplômes, on est premier partout, et on est un génie. Et on est incapable de créer une entreprise. Les qualités d'émission, c'est toutes les autres. C'est l'imagination créatrice. L'imagination créatrice, c'est une personne sur 100 qui en a. Créatrice, vraiment le vrai créateur. C'est d'autres qualités, la ténacité, la pugnacité, la combativité, l'ascendant sur les autres, le charisme, le goût du travail en équipe, le bon sens. Le bon sens. Le bon sens. On peut être super intelligent et être dénué de bon sens. Ces qualités d'émission, c'est ça les qualités qui font les créateurs d'entreprise. Et on a eu tort en France, on a privilégié toujours les diplômes. On met au sommet de la pyramide, on parachute un diplômé. Quelquefois, qui s'en tirent bien, d'ailleurs. Il faut le dire. Il y en a qui ont des qualités à la fois de réception et d'émission. Ça arrive, par bonheur. Mais moi, je connais des autodidactes qui ont été incapables de passer des diplômes et qui ont été de merveilleux chefs d'entreprise. Merveilleux. Avec toutes les qualités d'émission dont je viens de vous parler. Donc, il ne faut pas non plus dire l'entreprise a été créée car elle a un rôle social et sociétal. Non, non. Elle est née pour faire fortune, il faut qu'elle s'adapte à ce milieu. Bon. Mais elle est née comme ça. Il ne faut pas empêcher sa naissance biologique. Bon. Un entrepreneur, il veut gagner des sous. Ben, qu'il gagne des sous. Bon. Et après, il s'aperçoit que c'est pas un but unique, et qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie, et que même, ils s'en lâchent de gagner de l'argent.
Et que, comme vous disiez au début, même pour atteindre son but, il est tenu d'avoir
soin des... Il est obligé, il s'aperçoit vite s'il est intelligent, qu'il doit miser sur les hommes, et qu'il a intérêt à avoir des hommes motivés.
Marie Lyonnais, une toute dernière question.
Oui, j'aurais juste une dernière question qui, je dirais, sort un tout petit peu. Parce qu'on a beaucoup parlé donc, de l'entreprise. Et puis finalement, j'ai l'impression aussi que chacun, en fonction de sa situation personnelle, va vivre différemment sa vie dans l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas dire que des modèles de vie qui seraient hors de l'entreprise, donc hors de ce monde financier, économique reconnu, peuvent aussi être valorisés? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'est pas dans une société qui ne valorise pas assez ces autres formes d'accomplissement, en fait?
Les autres talents. Et là, vous avez raison. Vous savez qu'il y a quelques années, IBM, qui était à l'époque en tête du progrès, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui a quand même été en tête du progrès, disait « Je prends des cadres, quelle que soit leur formation d'études supérieures, Bac plus 3 ». Il avait des littéraires, des juristes, des archéologues. Il suffisait de prouver qu'on avait une licence ou une maîtrise et on pouvait entrer chez IBM. Et il prétendait, les PDG d'IBM que j'ai bien connus, prétendaient que c'était un enrichissement extrême à l'intérieur. Cette différence de formation, de culture, de vision était tout à fait enrichissante. Je crois qu'on va y revenir. On est sorti de la société technicienne où en électronique, on n'a que des électroniciens. Écoutez, moi j'ai une société d'électronique, notre travers, c'était de prendre des électroniciens pour faire de la gestion. C'était juste qu'on prenait pas des électroniciens pour faire de la comptabilité. Et on voit midi à sa porte. Je vais vous dire que c'est stupide. Donc, je crois que l'entreprise est un milieu qui doit être extrêmement varié. Cette harmonie sociale dont je parle tout le temps, n'est pas cette convivialité, elle ne s'acquiert pas comme ça. Il faut donner beaucoup de mal pour la créer. C'est un mal fou. Et certains disent, oh ben oui, mais ça va nous faire perdre de la rentabilité à court terme. Mais c'est quelquefois vrai. Mais c'est la définition même de l'investissement. Ça coûte avant de rapporter. C'est la courbe en J, comme disent les techniciens. Il faut que la dépense soit plus faible que le rapport, comme la lettre J. Donc il ne faut pas avoir peur de faire un investissement qui sera amorti, rentabilisé par la suite. Et miser sur les hommes, miser sur les jeunes, miser sur les jeunes recrues, miser sur la formation continue d'un cadre pendant des années, c'est le meilleur des investissements. C'est un investissement invraisemblable, c'est un investissement immatériel, mais c'est un investissement fabuleux. Et ceux qui ont joué ça, à mon avis, ne sont pas perdants. Et on voit que les meilleures entreprises s'y mettent peu à peu. Celles qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'elles étaient sur un créneau porteur qui marchait tout seul, elles se rendaient compte qu'un jour, la rivière, la source, elle laisse tarir. Toujours, il n'y a rien d'éternel. Et là, ils sont bien contents d'avoir des hommes motivés qui vont trouver d'autres produits, d'autres créneaux, d'autres diversifications. Jouer sur les hommes.
Merci beaucoup Yvon Gattaz de nous avoir partagé votre expérience d'entreprise, votre vision du monde du travail. Merci Antoine Prudhomose et merci Marie Lyonnais d'être venue pour poser ces questions qui étaient très intéressantes. Merci beaucoup.